Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Après les choses simples de la vie, avant de partir en vacances, j'ai voulu finir non seulement en beauté, mais en légèreté. Quoi de plus léger d'ailleurs qu'un ange ? Alors que d'habitude j'essaie de déployer une pensée de partir d'un point A, d'arriver à C en passant par B, aujourd'hui je vais multiplier les petits ballons d'idées, chaque ballon étant l'air et l'espace dévolu à un ange. Alors, envolons-nous à la découverte de ces étranges ou êtres anges, créatures qui, on peut en convenir, comme tout ce qui tient au langage, a été créé par l'homme, inventons un mot évoquant la chose, mais qui pourtant existe à sa façon dans l'espace et le temps de l'imaginaire. Je vis depuis 40 ans avec une femme qui vit avec un ange. Elle l'appelle gardien, c'est son ange gardien. Il garde sa place, chaude, dans le lit, l'embrasse en battant des ailes. derrière le cou, là où les cheveux bouclent joliment. Il nous garde une place de voiture lorsque nous nous garons. Au dernier moment, elle se libère. Géraldine dit alors « Merci, mon ange ». En parlant d'ange, je pense à Walter Benjamin, un de mes auteurs fétiches. Benjamin, fuyant le nazisme, part se réfugier à Paris, où il hanta la salle de lecture de la bibliothèque Richelieu, ressemblant étrangement à une simple volière. Outre des manuscrits, quelques livres, il transporta avec lui, pendant tout son périple, l'ange de l'histoire peint par Paul Klee. Ce dernier le suivit sans défaillir. Un de mes films préférés, Les ailes du désir de Wim Wenders, commence par l'ange, assis sur les ailes dorées d'un ange gigantesque, perché au sommet de la colonne de la Victoire à Berlin, que les nazis ôtèrent de la place de la République. Dans ce film étrange, aérien, frappé par la grâce, Wenders évoque à demi-mot, mais en pleine lumière, le livre « Enfance berlinoise » de Walter Benjamin. Benjamin, en effet, parle de cette fameuse colonne, symbole des victoires passées. Il écrit « Elle apparaît sur la vaste place comme la date rouge de l'éphéméride. Mais quand j'étais petit, nous dit-il, on ne pouvait passer une année sans fête de ce don. » Puis, évoquant la galerie, on sait son goût pour les passages, à partir de laquelle s'élance la colonne surmontée d'un ange doré, lointain parent du génie de la Bastille, aux ailes déployées dans son dos et par laquelle l'ange, au début du film, tombe et vient visiter la ville et sa bibliothèque. Nous entendons les pensées des lecteurs. Car cette galerie, écrit Benjamin, était l'enfer, l'opposé du cercle de grâce qui, au sommet de la couronne, entourait la victoire rayonnante. Certains jours, il y avait des gens là-haut. Devant le ciel, ils semblaient cernés d'un trait noir, admirer le sceau, les figurines de mes planches à découper. Le même ange qui vole au tout début du Faust de Murnau, scintillation inouïe de ces films enduits de phosphore, inflammables à tout moment. À propos des visiteurs qui montaient en haut de la colonne, Benjamin continue « Ils étaient les créateurs d'un seul caprice bienheureux. Ils étaient environnés d'un éternel dimanche. » Le dimanche, Ma maman se levait aux aurores, vidait, déplumait le poulet, l'enfournait. Après la messe, la bonne odeur dans les escaliers, un son de trompette. Le paradis des sens, jus d'or, craquement de la peau, effluves de caramel, huile sainte, sortie des ampoules et des reliques. Kant admirait l'œuvre de Swedenborg. Chez cet auteur, on trouve en effet, auteur du XVIIIe siècle, on trouve en effet cette idée vouée à un magnifique destin, correspondance entre le monde céleste et le monde terrestre. Elle mène à cette surprenante analogie entre les deux mondes, à ce constat si amusant, à l'opposé de la représentation dans les nuages sans perspective, monde cotonneux et ouaté du paradis. L'homme, nous dit Swedenborg, après la mort, est tel qu'a été sa vie dans le monde. Quelques idées saugrenues et par là si poétiques semées par Swedenborg. D'abord, chaque société d'anges représente un seul homme qui lui ressemble. Cela signifie qu'un homme porte en lui une multiplicité d'anges qui lui correspond. Et d'ajouter à cette bizarrerie, ou description de l'au-delà, appartenant à cette catégorie du sublime comme la catabase d'Ulysse dans l'Odyssée ou certaines visions de la Divine Comédie, la catégorie du sublime outrage la beauté. Elle est le dépassement au forceps. Voilà le texte de Swedenborg. En haut, vers l'ouest, il apparut une nuée d'un blanc rougeâtre avec de petites étoiles tout autour. Cette nuée descendit et par degrés. À mesure qu'elle descendait, elle devenait plus lumineuse. Je la vis enfin dans une forme humaine parfaite, les petites étoiles autour de la nuée étant des anges. Swedenborg déclare que puisque les anges sont des hommes et vivent entre eux comme les hommes de la terre, ont une parfaite symétrie, image identique et inversée dans le miroir, ils ont aussi comme nous des vêtements, mais sensiblement différents, plus subtils, dit-il, des domiciles, des petites maisons, ou un appartement dans un immeuble de rapport, d'autres choses semblables, hormis que tout qu'ils partagent de semblable avec les hommes se révèle être d'une texture plus parfaite, d'un tissu plus précieux. Aussi, leur vêture recoupe leur intelligence, et les plus élevés d'entre eux sont recouverts de brocart, de soie peignée rose, écarlate, ont des bas d'une finesse inégalée, et portent des chapeaux en feutre, des manteaux semblables aux robes de Fortuny, dont Proust nous dit, à propos de celui que portera Albertine, cette robe de chambre qui est sombre, dufteuse, tachetée, striée d'or, comme une aile de papillon. Dans Aurélia, le grand Nerval, qui fut un fervent admirateur de Swedenborg, comme Baudelaire et Balzac, écrit à propos des rêves. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu, et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures, gravement immobiles, qui animent le séjour des limbes. Puis, le tableau se forme. Une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des ombres s'ouvre pour nous. Swedenborg appelait ses visions « memorabilia », l'ange qui par la mémoire transfigure le monde, digne d'être mémorisé, aussi fixé, revivifié dans le souvenir. Une admirable description dans Aurélia d'un ange fait écho à ceux qui ornent la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Nerval écrit : un être d'une grandeur démesurée, homme ou femme, je ne sais, voltigé péniblement au-dessus de l'espace et semblait se débattre parmi les nuages épais. Manquant d'haleine et de force, il tombait enfin au milieu de la cour obscure, accroché et froissé ses ailes le long des toits et des balustres. Je pus le contempler un instant. Il était coloré de teintes vermeilles et ses ailes brillaient de mille reflets changeants. Vêtu d'une robe longue, à plis antiques, il ressemblait à l'ange de la mélancolie de Dürer.
Reflecting finally see revelation, revelation, deepest secrets of our souls.
L'ange de la mélancolie, cité par Nerval lui-même, mérite une part de ciel, un fragment, ici, dans cette émission. Un ange, la tête reposant sur sa main, plongée dans la grisaille, dans un capharnaüm d'objets. C'est un ange. Il semble pleurer une joie ternie. Étrangement, aussi associé à la géométrie, l'art de la ligne droite, du calcul, de la prévision, comment pourrait-on déchoir de la magie dans un monde où la science voudrait tout borner? Peut-être qu'au milieu d'une profusion des signes, jusqu'à sa tête auréolée de persil d'eau, de cresson, de fontaine ou livèche, il s'affronte à l'impossibilité de conclure, devant une telle richesse, là où tous les symboles se multiplient, comme des petits pains, à l'intérieur d'une image sursaturée, trop exposée à la lumière et aux scintillations des eaux. On pouvait parler des anges sans évoquer Rilke, qui en a beaucoup parlé, et qui chez lui reste un thème directeur. C'est une manière d'entrevoir et de souligner notre élévation, mais coincée entre le ciel et la terre. Dans les élégies de Hainaut, présence de l'ange traversée d'une coloration particulière. Ce n'est pas seulement la bonté et l'allègement, un combat s'exprime, un rapport de force s'établit entre lui et nous. L'énigmatique aveu, tout ange est terrible, dit Rilke. J'ose vous invoquer, dangereux oiseau de l'âme, répond à ce qu'Hölderlin dit à propos d'un enfant mort dans un poème de la fin où la mort, le divin, le repos absolu dont parle Van Gogh dans une de ses lettres à propos de la chambre jaune, leur silence qu'on dirait intempestif, se confondent dans une pelote tout emmêlée. La beauté est propre aux enfants. C'est la ressemblance de Dieu, peut-être. Ils ont en propre repos et silence qu'on trouve chez les anges eux-mêmes. Rilke déclare « Les anges, à ce que l'on dit, ignoreraient souvent s'ils sont parmi les vivants ou parmi les morts. Tous les morts nous regardent à travers nous. Les parents, nos parents devenus images au cours du temps, nous retenons le meilleur à notre image, en pensant leur ombre chinoise remue sur un fond d'hiver. Mon père nous emmenait, moi et mon frère, au quartier du Sanitas dans une épicerie appelée Coop. Pendant plusieurs mois, avant l'offensive du samedi, il collait des timbres sur un grand damier rappelant un peu les tickets de rationnement pendant la guerre, gagnait ainsi quelques sous sur certains produits. Ensuite, nous allions jusqu'au hall. Un aveugle jouait de l'accordéon à l'entrée délicate du palais d'acier et de verre. Il achetait des haricots rouges revêtus d'une tache noire dont le goût évoquait l'odeur du formol, des morceaux de rate fumée, des pichards, des sardines fraîches à déguster avec du pain beurré, comme à Bordeaux, dont l'intérêt rougeoyant évoque encore aujourd'hui ces carcasses de bœuf peints par Rembrandt. Tous ces hommes, ces marchands, l'aveugle, mon père, selon Rilke, sont des anges. Tournent encore dans nos têtes, viennent buller sur la page. Ils tournent chacun et montent vers le très bas. Thank you. je ne peux terminer cette émission sans parler de la recherche du temps perdu. Je peux dire que Proust fut un ange qui me réveilla d'un sommeil dogmatique. Avec lui, toutes les valeurs les plus certaines sont soumises au tamis infernal et sans concession de l'analyse. Comme Freud, il ne reste parfois de ce combat qu'un champ de ruines. Or, c'est au-dessus de ces ruines, des ruines de l'amour, de l'amitié rongées par le puissant acide de la spéculation, que brille miraculeusement, derrière un dernier écran de fumée, une étoile pâle qui fixe chez le lecteur un état de bonheur inégalé. Cela explique en partie la passion ou la détestation que produit chez le lecteur ce livre particulier. Dans un allègement qui fait penser aux anges de l'Arena, peint par Giotto, le narrateur, presque sans corps, le narrateur de la recherche, semble virevolter au-dessus du monde avec la virtuosité contaminante de ces petits êtres. Dans ce ciel transporté sur la paroi bleue, volaient des anges que je voyais pour la première fois, dit Proust, enfin le narrateur. Ce bleu transporté est une trouvaille qui pourrait résumer l'art proustien. Sa croyance en une résurrection du réel, dans le ciel des idées, le cercle de l'art. Aussi, les anges peints par Giotto ont-ils l'allure, non des anges fixés en des poses hiératiques, mais plutôt comme une race disparue d'oiseaux ou d'aéroplanes vibrant et exécutant des loopings lors d'un meeting. Leur nature de frelon ou d'abeille est signe d'un mouvement, mot qui pourrait à la fois désigner la phrase, mouvement de la phrase, toujours à U et à Dia, tournant autour du sujet comme un papillon, finissant par imprégner des personnages voué à n'être jamais fixe, mais tout le temps bougé par leurs propres moyens et aussi par la fluctuation du monde qui les entoure. Rilke a raison de situer les anges en un lieu hospitalier ou dangereux, entre vie et mort, puisque la vraie mort est dans la vraie vie. Eh bien, je remercie Simon à la technique, sans qui ces émissions seraient moins vivantes. Et après vous avoir souhaité de très belles vacances, telles que vous les souhaitez, je vous donne rendez-vous avec la curiosité à la rentrée pour une émission qui commencera une nouvelle série en fanfare. Nous baignons dans le langage. Sinne